Soyez les bienvenus, c'est le journal. Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils n'ont même pas 20 ans et doivent déjà s'occuper au quotidien d'un proche, malade ou handicapé. Focus ce matin sur les jeunes aidants, tout juste adultes, voire adolescents. Nous serons à Lyon à l'occasion de cette journée nationale des aidants. La souveraineté européenne au menu du dîner des dirigeants européens hier soir en Slovénie. C'est devenu la priorité d'Emmanuel Macron depuis la crise des sous-marins. Mais parmi les 27, vous l'entendrez, tous ne sont pas convaincus. Au sommaire aussi, cette enquête que vous dévoile France Inter, près d'un salarié sur deux déclare avoir été victime de discrimination au travail. Puis on vous présentera Franc-Tireur, nouveau magazine bientôt en kiosque et dirigé par le vieux routier de la presse Christophe Barbier.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui l'un des peintres les plus célèbres au monde, David Hockney, pour son exposition A Year in Normandie, c'est au musée de l'Orangerie à Paris. Ils sont au moins 11 millions en France.
À s'occuper au quotidien d'un proche, malade, handicapé ou qui ne peut plus vivre seul. On les appelle les aidants et une journée nationale leur est consacrée aujourd'hui. Parmi eux, 1 million ont moins de 25 ans selon les estimations de certaines associations, de très jeunes adultes, adolescents, voire enfants qui accompagnent un parent, un grand-parent ou un frère. Comme dans cette famille monoparentale de la région lyonnaise, c'est le reportage d'Hélène Chevalier.
À 14 ans, Livia s'occupe entre une demi-heure et une heure chaque jour de Soso, Soren, son frère, de 2 ans son cadet. Polyhandicapé, il souffre de troubles moteurs et d'une déficience intellectuelle.
J'essaye de l'aider, d'être avec lui pour moins qu'il sollicite maman.
C'est souvent le soir que l'élève de 3e et sa sœur de 8 ans donnent un coup de main à Emmanuel. La maman solo s'appuie principalement sur la créativité de la collégienne pour occuper Soren, mais en grandissant, elle lui a aussi confié des tâches un peu plus lourdes.
Je la sollicite même pour lui donner la douche, c'est très rare, mais ça arrive. C'est là, clairement pas son rôle. Mais des fois, en fait, lui, il veut se prendre sa douche tout de suite. Moi, je suis en train de faire à manger, je peux vraiment pas. Et en fait, elle prend la place de la maman et elle va donner la douche.
Un quotidien qui peut parfois être pesant pour Livia.
Je pense que je m'en rends pas trop compte, mais Soren, c'est souvent de la répétition. Et donc, au bout d'un moment, c'est fatigant.
La jeune fille n'estime pas pour autant que son rôle d'aidante l'empêche de suivre correctement sa scolarité. C'est pourtant une des principales inquiétudes d'Amaranta Bourgeois, la présidente de l'association Jeunes Aidants Ensemble.
Parfois, les jeunes ont beaucoup de difficultés à se concentrer, sont très fatigués par leur rôle d'aidant et donc du coup décrochent petit à petit sur le plan scolaire. Ça va parfois même jusqu'à un décrochage total.
Livia n'a pas souhaité faire part du handicap de son frère à ses enseignants, trop intime selon elle. Emmanuel s'en chargera lors de la prochaine réunion parents-professeurs.
Et parmi les adultes, cette fois, on apprend ce matin que moins de 16 000 personnes ont demandé à bénéficier du nouveau congé proche aidant mis en place l'an dernier. Chiffre dévoilé par la Caisse nationale d'allocations familiales. Ce dispositif permet de s'arrêter de travailler pendant 3 mois, mais pour les associations, il est encore trop peu connu. Un vote à l'unanimité cette nuit à l'Assemblée nationale contre les thérapies de conversion, ces pratiques qui visent à imposer de force l'hétérosexualité aux personnes LGBT. Les députés ont adopté en première lecture une proposition de loi créant un délit spécifique contre ces pseudo-thérapeutes.
Il est 7h33, l'Europe doit être moins dépendante des autres grandes puissances.
C'est le credo d'Emmanuel Macron depuis la crise des sous-marins. Alors le président français a voulu en faire le sujet de discussion hier soir aux retrouvailles des dirigeants européens, les 27 réunis pour un dîner en Slovénie. Vous y étiez, Maxence Lambrecq. Le chef de l'État veut absolument avancer sur son concept de souveraineté européenne.
Angela Merkel sur le départ, Emmanuel Macron en première ligne pour tirer les leçons de cet été chaotique.
On doit regarder les décisions qui sont prises par nos alliés avec lucidité pour ce qu'elles sont.
Dans son viseur, les États-Unis.
Il y a eu des choix qui ont été faits dont je ne peux pas dire qu'ils ont été des signaux de considération de la France ou de l'Europe. Qu'il s'agisse de l'Afghanistan ou du sujet Indo-Pacifique.
Son entretien hier avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken n'est qu'une première étape.
I just believe in fact.
Car je ne crois que dans les faits,
it's not an issue about
ce n'est pas une question de discours, insiste-t-il en anglais. Il aimerait que cette trahison américaine fasse bouger les 27.
Je pense que nous, Européens, nous avons besoin aussi d'être clairs avec nous-mêmes, sur ce que nous voulons pour nous, pour nos frontières, pour notre sécurité, pour notre indépendance énergétique, industrielle, technologique et militaire, pour pouvoir demander ensuite à nos partenaires ce en quoi on a besoin d'eux ou ce sur quoi on veut s'allier.
Mais cette prise de distance avec Washington agace les pays baltes et nordiques. L'UE ne peut se refermer sur elle-même, alerte le Premier ministre suédois. Le secrétaire général de l'OTAN est encore plus critique, logique, mais l'Élysée compte bien persévérer et organiser dans quelques mois un sommet en France sous sa présidence afin d'essayer de bâtir une force de défense européenne. Ça aurait un goût de revanche pour Emmanuel Macron. Ljubljana, Maxence Lambrec, France Inter.
Et aujourd'hui, les 27 chefs d'État et de gouvernement européens restent en Slovénie pour un sommet avec les pays des Balkans et la question sensible de l'élargissement de l'UE dans cette région. La France, décidément sur tous les fronts diplomatiques, avec les tensions associées, les autorités maliennes convoquent l'ambassadeur de France à Bamako après les mots très durs d'Emmanuel Macron contre la junte au pouvoir. Les dirigeants maliens appellent Paris à la retenue en évitant, je cite, des jugements de valeur. Une première cérémonie d'hommage à Bernard Tapie aujourd'hui, une messe ce matin en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Demain soir, les Marseillais pourront venir se recueillir devant son cercueil au stade Vélodrome. La discrimination en entreprise est-elle un phénomène massif? France Inter vous dévoile ce matin en exclusivité des chiffres troublants. Près d'un salarié français sur deux déclare avoir déjà été victime de discrimination sur son lieu de travail. Résultat d'une enquête du cabinet Occurrence pour l'association Diversidays. Cette étude révèle aussi que la diversité en entreprise est une priorité pour les salariés. Laurent Kramer, ils attendent plus d'efforts de leurs employeurs sur la question.
À 95%, les jeunes salariés attendent un engagement et un changement majeur de leur entreprise pour qu'elle s'engage sur la diversité et l'inclusion.
J'ai travaillé dans 3 entreprises différentes et c'est vrai que c'est toujours les mêmes profils. Je pense qu'ils regardent les CV et qu'il n'y a pas une grande diversité. Des entreprises qui en fait font en sorte de tri sélectif dès l'entrée.
À l'image de Lucille, 23 ans, les jeunes salariés plébiscitent l'inclusion et la diversité, se déclarent à 48% avoir été victimes de discrimination en entreprise. Il faut tout d'abord changer la culture managériale, souligne Auriel Darmon, à la tête d'une entreprise spécialisée dans le recrutement inclusif.
Vraiment, il faut sensibiliser les managers pour qu'ils ne recrutent pas les mêmes personnes et qu'ils n'aillent pas dans leur zone de confort. Sur ces sujets, maintenant, les entreprises sont attendues. Je pense qu'il y a très peu d'entreprises qui ont des politiques concrètes sur ces sujets.
L'association Diversidays souligne dans cette enquête que 71% des salariés attendent aujourd'hui la mise en place de quotas et d'un baromètre pour mesurer la diversité et l'inclusion dans chaque entreprise.
Elles sont en retard et on le voit lors de tous nos entretiens. Les employés, lors de leur entretien d'embauche, essayent de comprendre comment son entreprise est positionnée sur les sujets de l'inclusion et de la diversité en entreprise. Et donc, je pense que, comme l'écologie, ça vient de la base et les entreprises sont obligées de s'adapter.
Un salarié sur deux estime que ces sujets liés à la diversité en entreprise ne sont pas maîtrisés.
Et cette enquête est à retrouver en détail sur franceinter.fr. Accusé de banqueroute morale aux États-Unis, le patron de Facebook tente la riposte ce matin. Non, l'entreprise ne privilégie pas les profits plutôt que la sécurité de ses utilisateurs. Mark Zuckerberg, contraint de réagir face à la violence des attaques portées hier par son ex-employé Frances Haugen devant le Congrès. La lanceuse d'alerte demande aux parlementaires américains de réguler au plus vite le géant californien. C'est plus qu'un simple discours devant son parti que Boris Johnson prononce ce matin. Le Premier ministre britannique va clore le Congrès des conservateurs à Manchester et il doit fixer le cap de son gouvernement pour les mois à venir et surtout rassurer face aux nombreuses pénuries qui touchent en ce moment le Royaume-Uni. À Manchester, Richard Place.
Le pays manque de serveurs, de cuisiniers, de bouchers et surtout de chauffeurs routiers. Des soldats viennent même d'être réquisitionnés pour pallier cette carence. Ce qui se passe ici n'arrive nulle part ailleurs, pas dans ces proportions. Faux, selon le secrétaire d'État Alistair Jack. Tout le monde rencontre des difficultés. Nous avons pris de nombreuses mesures pour faire revenir des chauffeurs routiers dans nos entreprises. Il suffit de continuer et de rester concentré sur cet objectif. Comme plein d'autres pays dans le monde, nous avons une pénurie de conducteurs, mais nous nous en occupons. La pandémie a coûté cher. Il a fallu soutenir l'économie, les salariés, les services de santé. Comment remplir les caisses aujourd'hui? Boris Johnson a déjà augmenté certaines taxes. Il pourrait être tenté de pousser encore un peu plus le curseur. Hors de question pour Thomas Klaus, militant d'une vingtaine d'années.
Ce qui fait la grandeur de la Grande-Bretagne, c'est le peuple britannique lui-même. Lorsque le gouvernement baisse les impôts, réduit les réglementations, le peuple britannique peut vraiment innover.
Le nivellement par le haut, leveling up, voilà ce que va répéter Boris Johnson tout à l'heure. Il veut augmenter les salaires, les compétences et la productivité. Pour y parvenir, un outil indispensable, selon lui, le contrôle de l'immigration. Manchester, Richard Place, France Inter.
Il est 7h39 et bientôt un nouveau magazine dans vos kiosques.
Oui, un hebdomadaire attendu pour le mois prochain, Franc Tireur. Ce sera son nom, voulu par le magnat tchèque de la presse, Daniel Kretinsky, qui possède déjà Marianne ou Elle. La campagne de préabonnement commence aujourd'hui pour cet hebdo qui promet de combattre toutes les formes d'obscurantisme. Alors concrètement, ça ressemblera à quoi, Alexandra Hakoun?
Un combat qui commence dès le titre, Franc-Tireur, pas de hasard dans cette référence au célèbre journal de la Résistance, même si son futur directeur, Christophe Barbier, préfère l'aborder avec humilité.
On ne va pas se comparer aux héros qui combattaient au prix de leur vie. On est dans une forme de combat intellectuel. Franc-Tireur, c'est aussi, c'est l'étymologie du terme, un tireur isolé qui est là dans un combat un peu parallèle au milieu de la forêt. Nous sommes nombreux à combattre, chacun un peu dans notre coin, tous les extrémismes, tous les obscurantismes. On a décidé de se réunir.
C'est l'essayiste Caroline Fourest, l'ancien journaliste de Libération et Marianne Éric Descoutis, le philosophe Raphaël Enthoven, on y trouvera aussi la signature de l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly, et celle de la juriste Rachel Kahn, des profils éclectiques, pour une offre qui, selon Christophe Barbier, n'existait pas.
Il y a un manque pour cette famille de gens raisonnables qui considèrent que la raison est un combat et qu'il faut le mener de manière ordonnée. Il faut que cette ligne de combat soit occupée, sinon il n'y en aura que pour les extrêmes. Il n'y a pas que l'extrême la plus à droite, il y a aussi l'autre extrême. Et puis il y a les extrêmes qui ne sont pas politiques. Il y a un obscurantisme qui conteste la science, une remise en question de la civilisation, on déboulonne les statues, on veut effacer des pans de la culture. Ça aussi, ça se combat.
Avec seulement 8 pages, Franc Tireur tiendra plus du pamphlet que du magazine. Un format qui devrait rappeler celui du Canard Enchaîné, sans publicité, pour un prix de vente promis aux alentours de 2 euros.
Franc Tireur en kiosque normalement dès le mois de novembre. Enfin, quand la voyante ne tient pas ses promesses, aux États-Unis, un habitant de Los Angeles attaque en justice sa médium spécialiste des affaires de cœur. Contre 5 000 $, elle lui avait promis de le sortir de ses difficultés amoureuses. Mais au bout de quelques temps, le client n'a constaté aucune amélioration sur son couple. Il lui réclame donc 25 000 $ de dommages et intérêts. Oui, ça les vaut.
Oui, merci Alexis Morel. L'édito politique à suivre.